Je vous propose que nous partagions une lecture dans le livre du prophète Amos au chapitre 8 et à partir du verset 9. Livre du prophète Amos au chapitre 8 et à partir du verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif, ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba ». Ils tomberont et ne se relèveront plus. Dans le chapitre 9, je vous propose de poursuivre, de compléter cette lecture par deux autres versets. Amos, chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Je propose que nous réfléchissions quelques moments ce matin sur cette parole que Dieu a laissée au peuple d'Israël par le prophète Amos, chapitre 8 et au verset 11, lorsque Dieu déclare « Voici, les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain, la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » On dit parfois que prenons conscience de la valeur de quelque chose, souvent lorsque nous en sommes privés, que nous ne l'avons plus. La sagesse populaire applique ce principe à la santé. C'est quand on ne l'a pas ou quand on ne l'a plus, que l'on se rend compte de la chance de la posséder. Parfois, ça s'applique aussi à la perte d'un être cher. On recommande parfois de profiter de la présence de ses parents et d'en prendre soin, que on les a encore. Et tant nous sommes privés de rassemblements nous permettent de percevoir toute la valeur des rassemblements de l'Église, physique, de la communion fraternelle expérimentée telle que nous l'avons connue dans ces temps précédents confinement. Si les paroles de Dieu nous permettent de réfléchir sur cette condition d'Israël, privée de paroles de Dieu et Léa en éprouver, en mesurer toute la valeur. J'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Parfois, dans la parole de Dieu, la faim et la soif nous sont présentées comme quelque chose de positif. Nous tenons des paroles de Jésus-Christ dans le serment sur la montagne, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Encore du prophète Jérémie qui affirmait qu'il avait recueilli les paroles de Dieu, les avait dévorées. Celles-ci avaient fait la joie de son cœur. Dans le livre du prophète Amos, ce n'est pas sous cet angle qu'il faut entendre cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Il s'agit ici d'une prophétie concernant un jugement sur le peuple d'Israël, où précisément nous y reviendrons sur les 10 tribus devenues infidèles et pratiquant l'injustice. Quel Dieu annonce qu'il va couper l'accès à la parole de Dieu. Dieu, nous en reparlerons, avait parlé pendant toutes ces années à son peuple, que ce soit en Juda, ses tribus du Sud, qui continuaient à célébrer fidèlement le culte dans le temple de Salomon. Mais aussi, Dieu avait parlé à ce royaume du Nord, ne célébrait plus le culte comme Dieu l'avait demandé, et à qui Dieu a continué pourtant à envoyer des prophètes. Dieu a envoyé Élie, Élisée, Osée, écrit Amos. Mais devant l'infidélité répétée de cette fraction du peuple, c'est une parole qui peut interpeller la conscience de ceux qui l'entendaient. Je propose que puissions pour nous, dans notre contexte présent, à l'heure actuelle, méditer sur cette parole que Dieu adressait à Israël pour en retenir au moins trois choses. Première, bien c'est que, à travers cette annonce du jugement par Amos, se manifeste la justice de Dieu et de ses jugements. Justice de Dieu envers le peuple d'Israël, peuple envers lequel Dieu avait manifesté toute sa bonté et mis en œuvre tout son dessein d'élection, avait inlassablement mis en œuvre toute sa fidélité à l'avoir délivré d'Égypte. Le peuple constamment avait été l'objet des soins de Dieu, de cette délivrance, de son secours dans le danger. Tout ceci, nous retournant, nous reconnaîtrons aisément. Dieu si souvent nous a aidés, reconnaîtrons les bontés de l'Éternel. En particulier, comme nous le disions, la parole de Dieu s'était manifestée à ce peuple, et sous l'ancienne alliance, de manière particulière, unique, à toutes les nations du monde. La parole de Dieu avait été confiée à Israël, lui avait été envoyée, lui avait été donnée pour le soutenir, pour l'instruire, mettre à part des autres peuples. Ça avait été le cas par le biais de Moïse, qui avait donné 10 commandements, les 10 paroles, et toutes les paroles du Pentateuque. À la suite de cela, Dieu avait veillé à ce que jamais Israël ne manque de sa parole. Elle était dispensée, renouvelée, enseignée par les sacrificateurs. Et roi, à partir du moment où David a été désigné, avait aussi, parce qu'il est concerné, comme mission de faire respecter parole de Dieu. Il devait lire dans le livre de Dieu même, puis veiller à ce que le commandement de Dieu soit mis en pratique au sein du royaume. Et enfin, il ne devait pas manquer d'envoyer des prophètes, faire entendre la puissante voix de Dieu, maintenir les justes sur le chemin de la justice et ramener le cœur des rebelles à la sagesse. Or, nous savons, il y a en occasion où la parole de Dieu nous console, nous soutient. Et nous avons expérimenté également que la parole parfois nous reprend, nous corrige, conteste avec nous. Et c'est là que se manifestent les choix, nos choix. Comment choisir lorsque la parole de Dieu conteste avec les désirs parfois insensés de notre cœur de refuser commandements, les demandes, les instructions de la parole de Dieu. Ou au contraire, comme Job, de dire « je ferai plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». Toujours la bonne solution. Israël avait fait le choix de ne pas recevoir cette parole, s'est endurci en ce refus de la parole divine. Il est étonnant, après des siècles de patience, de la retire. Cette parole. Justice de Dieu, justice de ses jugements, manifeste dans la parole d'Amos. Dieu, lassé par l'endurcissement du peuple, son refus de recevoir sa parole, lui dira « j'enverrai la famine, faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel ». Deuxième enseignement de cette parole de Dieu par le prophète Amos, c'est que le jugement est mitigé par la miséricorde divine. Je me souviens de la prière de ce prophète, cet homme de Dieu Habacuc. Il aidait avec Dieu et lui disait « Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » C'est ce qui caractérise Dieu. Même lorsqu'il juge, il le fait toujours avec mesure. Selon sa justice, n'oublions pas sa miséricorde. Le jugement est mitigé par la miséricorde divine, cette privation, cette famine de la parole de Dieu, d'une part, en ce que, même si le jugement est présenté comme sans appel, Dieu dit en réalité, Israël sera errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Même donc si ce jugement est présenté comme appel, comme sans appel, bien, l'histoire de ce peuple nous permet de nous rendre compte que ce jugement va tout de même produire un fruit agréable. Et l'Épître aux Hébreux nous parle de ce châtiment qui, pour celui qui le reçoit, finit par produire un fruit paisible de justice. Et c'est vrai que si pendant tout un temps dans l'histoire d'Israël, la parole de Dieu s'est retirée, révélation a disparu, les prophètes se sont tus. Bien, à partir de la déportation, commençaient à fleurir les synagogues. Celles-ci se sont multipliées au fil des siècles. Qu'y faisait-on dans les synagogues? On y lisait la parole de Dieu. À se lever, au bout de plusieurs décennies, cette secte des pharisiens, que nous connaissons sous un jour bien négatif par les évangiles, mais malgré tous leurs défauts, ils n'avaient pas que des torts, ces pharisiens. Autres souhaitaient maintenir l'attachement à l'écriture. Et contrairement à ce qui s'était produit au temps du roi Josias, où on avait retrouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel sans que personne ne s'en préoccupe, plus jamais. À partir du moment où Israël sera dispersé et expérimentera la famine, la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, plus jamais l'Écriture sera laissée de côté. Bien sûr, c'est plus qu'un attachement humain à l'Écriture, il fallait que le cœur soit éclairé pour recevoir Jésus-Christ. Mais remarquons néanmoins que, à travers même ce jugement, une forme de miséricorde s'exerce, celle qui était disposée recevoir et à garder la parole de Dieu. Puis, miséricorde, dans le sens où, si le jugement est annoncé, une porte d'espérance va demeurer ouverte. Nous avons lu au chapitre 9 et au verset 11, Dieu, pour soutenir le cœur des fidèles, pour ne pas abattre totalement le cœur de ceux et celles qui, au milieu du marasme ambiant, désiraient demeurer fidèles à Dieu, fera une promesse. Je relèverai de sa chute la maison de David. Bien sûr, c'est Jésus-Christ lui-même qui est annoncé dans cette prophétie et la constitution de l'Église. D'ailleurs, cette parole sera citée par les apôtres dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, les jugements de Dieu, quand ils nous atteignent, doivent nous conduire à rechercher Christ, à rechercher Jésus. C'est lui que Dieu destiné par son sang, à être une victime propitiatoire pour ceux qui croient en lui. Alors, le jugement est mitigé par la miséricorde, mais dans toutes ces choses, retenons cet avertissement. Quelle chose terrible pour un homme, pour une femme, être privé de la parole de Dieu. Quand Dieu ne permet plus que l'Évangile atteigne le cœur d'un homme ou d'une femme qui en a besoin. Quelle chose terrible pour une église, de n'avoir plus accès à la saine parole, à un enseignement fidèle, dispensé selon ce qui a été annoncé dès le commencement. C'est terrible pour un mouvement religieux lorsque Dieu retire la dispensation d'une saine parole, révèle sa volonté, personne, Jésus-Christ, son salut. Les choses terribles pour une nation, pour un pays, même si il n'est pas exact de comparer directement l'alliance que Dieu avait passée avec Israël, avec celle que dit parfois qu'il passerait avec les peuples. Parole qui nous amène à considérer la miséricorde de Dieu, jugement mitigé par la miséricorde divine, mais aussi à prendre au sérieux cet avertissement. Troisième enseignement que nous retirons de ces paroles de Dieu à Israël par le prophète Amos concerne, c'est intéressant de le faire, les causes du jugement annoncé ici. Tout d'abord, nous l'avons dit, Dieu contestait avec Israël, avec le royaume du Nord, à cause de la somme d'injustice qui s'y commettait. Bon, disons le chapitre 6, plus encore l'ensemble des chapitres qui précèdent, rendront compte que la malhonnêteté, l'oppression, marquaient journellement la vie de ce peuple d'Israël. C'est vrai que, concernant la fraude, la malhonnêteté, comme Paul le rappellera aux Thessaloniciens, Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Mais aussi, peut-être surtout, car ce fait constituait la cause, la racine de tout ce qui se commettait en Israël. Au verset 14, nous avons lu que Dieu fera ce reproche dix tribus. Ils jurent par le péché de Samarie. Et ils disent, vive ton Dieu, Dan. Quoi Dieu fait-il allusion ici? Et nous savons que, à la fin du règne de Salomon, lorsque celui-ci était devenu infidèle, que les femmes avaient détourné son cœur, l'avaient porté à l'idolâtrie, bien, le fils de Salomon, Roboam, grandissait auprès de son père. Lorsque celui-ci a succédé à Salomon et a maltraité le peuple dès son accession au trône, il s'est rendu odieux à lui. Et c'est alors que cet homme, serviteur de Salomon, Jéroboam, s'est exilé en Égypte, il se cachait, que Salomon voulait à sa vie. Jéroboam a été appelé par le peuple des 10 tribus du Nord. Seule la tribu de Juda et la tribu de Benjamin ont resté attachés à Roboam, le fils de Salomon, et ont continué à célébrer leur culte à Dieu dans le temple de Jérusalem. Et Jéroboam est donc devenu roi des 10 tribus du Nord, qu'on appelle le schisme. Israël a été scindé en deux. Il y a eu une profonde division au milieu de ce royaume. Dieu l'a permis comme un jugement. C'était l'infidélité de Salomon. Or, Dieu avait fait des promesses à Jéroboam. Il lui avait dit, si tu es fidèle, tu marches dans la voie de David, alors je te garderai, je prospérerai ton règne. Et par peur, Jéroboam a raisonné en se disant, si Israël continue à célébrer le temple comme Dieu l'avait demandé, Jérusalem, bien, partiront de mon royaume, s'attacheront à nouveau à Roboam et non pas à moi. Ils me tueront, peu de raisonnement. Alors que Dieu avait donné une promesse à Jéroboam, celle-ci s'attachait à une marche selon la fidélité. Jéroboam, pour éviter que les Israélites de son royaume ne célèbrent le culte ailleurs que dans les 10 tribus, ne retournent à Jérusalem comme Dieu l'avait souhaité, l'avait révélé, a fait ériger 2 idoles, 2 veaux d'or, l'un à Dan, à l'extrême nord du pays, et l'autre à Bethel. Et le péché de Samarie. Samarie était la capitale de ce royaume du Nord. C'est ce que Dieu entend, verset 14 ici, lorsqu'il dit, il jure par le péché de Samarie. Tout le système religieux élaboré par Jéroboam était calqué sur ce que Dieu avait enseigné à Israël par Moïse. Extérieurement, le culte qui était rendu à Israël ressemblait à s'y méprendre, celui que Dieu souhaitait qu'Israël célèbre. Il y avait des fêtes, des célébrations, des sacrifices, et l'on instituait même une race de sacrificateurs, on les désignait du milieu du peuple. Mais rien de tout ceci ne reposait effectivement sur ce que Dieu avait réellement demandé. Le culte ne célébrait plus Jérusalem, personne n'allait au temple, le sacrifice n'était plus offert sur l'autel que Dieu avait désigné. C'était éloigné de la base. Et un éloignement de la base, la vie d'un homme, d'une femme, malgré toutes les apparences que peut revêtir cette religion, ne peut jamais produire autre chose que de l'injustice, de la malhonnêteté, de l'oppression. C'est la cause, la racine profonde du mal d'Israël, le péché de Samarie. Et pensez que nous retenons sans doute la pensée centrale qu'il nous faut retenir de cette parole que Dieu adresse à Israël par le prophète Amos, c'est que nous devons prendre garde, individuellement, collectivement. Parce que quelle que soit la forme de notre culte, aussi ressemblante qu'elle puisse être extérieurement à ce que enseigne la Bible, quel que soit le nombre de ceux qui sont établis pour dénier la parole de Dieu, nous devons prendre garde que nous ne nous éloignons pas du seul endroit que Dieu a désigné pour lui rendre un culte, l'agréé, pas, bien sûr, aujourd'hui, un autel dans la ville de Jérusalem ou un temple aux murs extérieurs imposants. Comprenant toutes ces choses symbolisées, la croix, Seigneur Jésus-Christ. Le temple de Salomon, érigé sur le lieu du Morija, lieu du sacrifice. Sacrifice, Dieu qui nous parle de la croix, seul fondement véritable de notre salut. Croix qui nous parle aussi du sacrifice qu'en retour, Dieu attend, celui qui est rendu nécessaire, le sacrifice de notre volonté propre, de nos intérêts. Morija, c'est le mont où Abraham s'est vu demander de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac, et Dieu n'a pas permis que Isaac meure. C'est néanmoins le renoncement aux intérêts propres, à la volonté propre, qui a réellement été demandé à Abraham sur ce mont-là. Outrepasser, négliger, se détourner de la croix, peut-être encourir le risque, nous aussi, de connaître la famine de la parole de Dieu. Non pas, bien sûr, des paroles apportées au nom de Dieu, car celles-ci ne feront jamais défaut. On les trouvera toujours. On trouvera toujours des hommes pour parler au nom de Dieu dans la chrétienté, dans mille religions. C'est la famine, la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Les paroles qui révèlent Dieu, la parole par laquelle Dieu se révèle. De cette parole du prophète Amos, retenons cette nécessité de rester attaché à la parole qui nous a été annoncée dès le commencement. Parole qui dénonce nos infidélités, notre péché. Épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments, les pensées cachées du cœur. Pour celui qui a à cœur de la recevoir, elle nous conduit vers Jésus-Christ, grand souverain sacrificateur, miséricordieux, compatissant, celui qui nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secouru dans tous vos besoins. » Nous avons donc retenu, à partir de cette parole, de révélation de la justice de Dieu et de ses jugements. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine, non pas la disette de la faim, du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Parole nous révèle également le fait que Dieu mitige ses jugements par la miséricorde et, en mettant en lumière enfin les causes de ce jugement, la parole nous exhorte de lui rester attaché intérieurement, en vérité, conservant pour nous-mêmes sa parole, que Dieu nous bénisse. Amen.